France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient sur France Culture, nous vous proposons une émission à deux voix, celle de passionnés de l'Orient chrétien et de la création artistique, dans le cadre d'un podcast qui est sorti au début de l'été et qui rencontre un très grand succès, celui d'un parcours radiophonique en quête d'Orient sur les routes du christianisme. Une sorte d'objet artistique, élégant, beau et profond, qui intègre des textes, des musiques, des chants, et surtout la narration d'un paysage oriental. Nous partons d'Istanbul pour le Tour Abdin, puis la Syrie, l'Éthiopie, ou encore l'Asie centrale sur la trace des églises nestoriennes. Je suis avec Ulysse Manès. Voilà, vous êtes déjà venu dans notre émission. Vous nous aviez parlé de la Roumanie orthodoxe, de ces églises que vous aimez particulièrement. Vous êtes un spécialiste des littératures d'Europe centrale et vous êtes aussi un voyageur parce que vous avez parcouru une bonne partie de la Turquie, Istanbul, Syrie, le Liban, et vous êtes aussi un grand découvreur de ces contrées. David Federman, vous êtes un spécialiste du son, une sorte de créateur artistique. Vous avez travaillé avec Jean Lebrun, je crois bien. Ulysse, je vais commencer avec vous. Comment résumer en quelques phrases l'initiative de ce projet? Comment d'abord est née l'idée? On parle de 5 épisodes de 15 à 20 minutes. Comment vous avez procédé vous-même d'abord pour conceptualiser l'idée et puis pour mettre en place cette marche, cette espèce de scénario?
Sébastien, merci pour votre invitation. On est ravis, David et moi, de pouvoir raconter l'histoire de cette série documentaire qui nous a en effet pris entre 1 et 2 ans de travail, d'exploration et de voyage. Cette idée a germé par plusieurs voies. Je dirais d'abord que c'est des voies personnelles, des voies de voyage, vous l'avez mentionné. On a discuté ensemble lors d'une précédente conversation à la radio de mes voyages dans le Tour Abdin. Et depuis longtemps, j'avais envie de faire quelque chose autour des chrétiens d'Orient, au sens large. Alors, je ne savais pas si ça allait être par un versant de musique, par un versant de voyage. Et il se trouve que mon compère David, vous avez mentionné ses travaux radiophoniques, on peut aussi mentionner ses travaux musicaux, il est compositeur. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un travail avec lui. L'idée a germé un jour de travailler d'abord sur un musicien qui s'appelait Julien Weiss, que vous avez connu très bien.
À Alep.
À Alep et à Istanbul d'ailleurs. Et il est venu plusieurs fois dans cette émission. Et à l'origine, on voulait faire un travail sur lui. Et puis finalement, à force de conversation avec David, on a commencé à faire des premiers scénarios. Ça a été très long et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas un travail beaucoup plus vaste, beaucoup plus ambitieux si j'ose dire? Ce serait une grande fresque des routes du christianisme oriental. Alors là, c'est quand même très très audacieux de s'attaquer à un sujet pareil. Donc ça demande un long travail d'écriture pour affiner le thème, pour être à la fois très précis et très généraliste, parce qu'on peut tomber dans tellement de dimensions hyper spécialistes. En plus, les églises d'Orient sont tellement subdivisées en sous-catégories, les Syriaques, les Coptes, les Maronites, les Gaises, etc., que on s'est dit, on va essayer de faire une grande fresque générale qui sera comme une espèce de road trip sonore. Et il fallait s'appuyer à la fois sur des spécialistes, des intervenants de haut de gamme, qui sont à la fois des voyageurs et des spécialistes du christianisme oriental. On peut les nommer, il y en a certains habitués d'ailleurs à cette émission. Alain Desremaux, Jean-François Colosimo, Jean Lebrun, Bertrand Hirsch, spécialiste de l'Éthiopie, Gilles Kepel.
Gilles Kepel aussi, oui.
Et puis vous, Sébastien, vous participez grandement à cette série documentaire et vous êtes même l'un des fils rouges de cette série puisqu'on s'est beaucoup appuyé pour l'écrire sur vos œuvres littéraires et radiophoniques et de votre thèse de doctorat à votre dernier livre, La Marche et le Sacré. Mais enfin, on va y revenir dans le détail. Je vais céder la parole à David, sinon l'émission est courte et il faut qu'on partage.
Alors, je me tourne vers vous, David. Voilà, vous n'êtes pas issu du monde des christianismes orientaux, c'est-à-dire que vous avez découvert, j'ai l'impression, la matière, justement, en la travaillant, en la forgeant. Vous venez du son. Moi, ce qui m'intéresse avec votre approche, c'est un sujet qui est quand même un sujet assez spécifique, un sujet de niche, malgré l'actualité, malgré les paysages dont on parle, voilà, avec beaucoup, beaucoup d'envie de découvrir et de mieux comprendre ces communautés. Mais vous avez une approche artistique, et c'est là où ça me semble très intéressant. C'est comment en fait, la question, c'est la démocratisation et l'accès de ce savoir par d'autres moyens. Alors, le podcast, voilà, c'est quelque chose qui se développe énormément, hein. France Culture en fait beaucoup, Radio France, voilà, c'est un média actuel, c'est un média qui a une audience différente vers les jeunes. C'est ça qui vous a attiré?
Moi, je vais vous dire, alors pour avoir passé pas loin de 10 ans à Radio France, étant musicien d'identité, avant d'être alsacien, avant d'être même peut-être français, je me sens jazzman, c'est ça mon identité, et j'étais venu à la radio dans l'optique de pouvoir construire cette culture du son. Et j'ai découvert en fait l'art du rapport entre les mots, la musique, le sens de la narration, le rythme d'une histoire. Et pour avoir travaillé longtemps ici, on citait Jean Lebrun avant à France Inter. J'étais moi capté par exemple par ces marches de l'histoire, l'émission qu'il a tenue pendant de nombreuses années sur France Inter sur le temps de Midi et Deux, où en fait il arrivait en une demi-heure à pouvoir me transporter dans l'histoire avec beaucoup de poésie. Et j'ai toujours trouvé ces chapeaux initiatiques, la façon dont il ouvrait ses émissions, qui étaient des coups de maître comme ça, littéraires, qui arrivaient par la beauté du récit à me transporter dans le voyage. Et je vais vous dire, de mes yeux comme ça, quand j'observais les antennes de Radio France, parce que comme tous les gens qui travaillent ici à Radio France, même nos amis derrière la vitre, on écoute tout le temps Radio France à la maison aussi. C'est le seul métier où, à la maison, on écoute encore la radio. Et en fait, j'avais très vite identifié le bouquet des émissions religieuses du dimanche matin sur Culture. Et j'avais toujours été un peu intrigué par cette émission des Chrétiens d'Orient, en me disant, mais qu'est-ce qui fait qu'à côté des Juifs, de la messe retransmise le matin des catholiques, de l'émission des protestants, pourquoi il y a cette particularité? Et donc c'était comme ça une sorte d'émission mystérieuse. Et sans jamais avoir pris le temps de m'y pencher, le destin a fait, dans le travail commun et la rencontre heureuse que j'ai faite avec Ulysse, d'un seul coup, il a posé cette envie de pouvoir monter une série autour de ce destin des chrétiens d'Orient. Et pour moi, c'était essentiel, et là je réponds précisément à votre question, Sébastien, de pouvoir en faire un objet, j'allais dire, cinématographique. Ça veut dire que pour moi, la radio, la façon, tout ce que j'ai entendu, ce patrimoine radiophonique que Radio France a créé depuis les années 40, j'allais dire, et Artaud qui hurlait dans la cage de l'escalier de la radio, toutes ces expérimentations, tout ce qui fait que le podcast aujourd'hui peut exister parce que la radio a j'allais dire, dessiné les contours de l'abstraction, de la création sonore. D'un seul coup, pour moi, il fallait qu'on puisse être à la fois dans la vérité scientifique, accueillir la parole de tous ces universitaires, mais, et c'était ça l'enjeu, et à mon avis, on a réussi, trouver la bonne frontière pour en faire un objet scénaristiquement entraînant et haletant.
Ulysse Manès, est-ce que vous pouvez nous décrire les grandes étapes donc, de ces épisodes? Alors peut-être pas d'aller dans le détail de chaque lieu, mais nous faire vivre un petit peu ce parcours.
C'est une géographie relativement arbitraire, parce qu'on aurait pu aller dans plein d'autres régions du christianisme oriental, puisqu'on en trouve des traces à peu près dans une grande partie de l'Afrique, du Moyen-Orient bien sûr, de l'Asie centrale, c'est gigantesque. Je dis juste une précision avant sur ce que disait David, c'est que ça a été pour moi un vrai travail passionnant d'écriture radiophonique. J'ai travaillé à France Culture, j'ai produit des émissions sur l'Europe centrale, mais c'était pas du tout le même type d'écriture, c'était des conversations comme on en a une là aujourd'hui. Alors que cette série documentaire, c'est comme une fiction, avec des intervenants, un vrai découpage, un voyage, etc. Donc il faut penser de manière millimétrique, précise et poétique. David m'a beaucoup appris à ce titre, donc je le remercie. Et alors, la géographie, on s'est dit qu'on allait trouver d'abord un bastion central, ce serait Istanbul. Parce que c'est la porte de l'Orient, etc., c'est le Bosphore, c'est le croisement des communautés et des mondes, et puis c'est le vieux passé byzantin. Donc en partant d'Istanbul, on pouvait remonter vers une vieille mémoire lointaine en découvrant que derrière les églises contemporaines, il y a des petites structures byzantines et que parfois, il y a, comme vous dites dans un texte, une métempsychose de la pierre, c'est-à-dire que l'âme change
Mais les murs restent les mêmes. D'ailleurs, n'oublions pas que le grand symbole de la Sainte Sophie, quand on entre dans la Sainte Sophie, qui est une mosquée, on voit immédiatement une représentation de la Vierge, ce qui est quand même une chose inouïe. Donc on est parti de là, et ensuite on est parti sur les routes. Sud-est de l'Anatolie, le Tour Abdin, la montagne des serviteurs de Dieu, avec ses monastères, ses ermitages, ses messes syriaques. On entend d'ailleurs au loin, dans l'épisode 2 de notre série, des chants syriaques, que je suis allé enregistrer à l'époque lors d'un voyage. Et puis, troisième épisode, la route de la soie, sur les traces des Nestoriens, jusqu'à la Chine. Là, on raconte la mission d'Alopène ou Aluoben, qui est un nom tiré de Abraham, mission envoyée en 630, qui arrive depuis la Perse qui était chrétienne à l'origine, et qui, c'est une mission qui veut aller christianiser l'Orient. Et donc on suit les étapes de la route de la soie, ils apprennent à parler chinois, et ils veulent traduire les évangiles. Voilà, ça c'est une épopée fantastique. Alors on a les éclairages d'Alain Desremaux, de Colosimo, et tout ça crée une espèce de musicalité. Je vais très vite pour finir. Éthiopie, avant-dernier épisode, et l'île de Chypre, pour finir. Là où vous vivez, on vous a rendu une petite visite pour finir.
La question que je voulais vous poser plus précisément, c'est votre lien, l'articulation entre justement ce désir de cinéma, de paysages dont David Federman parlait tout à l'heure, et vous, votre approche qui est plus technique, c'est-à-dire que vous allez interviewer le spécialiste pour vous renseigner justement sur ces grandes périodes historiques. Comment vous avez réussi, donc, dans cette écriture, à rendre ces textes accessibles, finalement, et cette pensée, d'une certaine manière?
C'est un enjeu aussi douloureux que les thésards qui ont fini leur thèse et qui veulent la transformer en essai publiable et accessible. Vous savez, ça peut prendre 10 ans, parce qu'il y a quand on est dans une écriture technique et spécialiste et qu'on veut la démocratiser, ça demande une souplesse d'esprit et un désir d'être compris, un désir de clarté, qui est douloureux pour le spécialiste, par définition, parce qu'il veut rentrer dans des détails d'érudition, et il pense que si il simplifie, il trahit. Or, je pense qu'au contraire, c'est une vertu fantastique de pouvoir rendre un savoir accessible. Enfin, là, je dis la palissade, je dis un peu des banalités, mais et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé avec David de tout faire en commun. Je ne suis pas allé interviewer nos invités sans David. On a vraiment mené de front la chose. Pareil pour les sélections de passages. Quand David disait « mon oreille s'ennuie, le passage est trop long », on coupait. Ou on simplifiait. Donc c'est vraiment une question de rythme et de musicalité. En fait, pour dire en un mot, c'est une question d'oreille.
David, je vous passe la parole.
Oui, j'allais vous dire, en fait, scénaristiquement, on a déterminé à l'avance ce à quoi les épisodes, ce à quoi ils devaient ressembler. Ça veut dire qu'on avait écrit un fil narratif, on savait que les épisodes devaient faire 20 minutes pour que la série soit, ça c'est le monde du podcast, écoutable lors d'un jogging, quand on cuisine chez soi, etc. C'est associé toujours à une activité, l'écoute. Et en fait, si vous voulez, comment faire rentrer 5-6 invités dans un épisode, dans une série entière? La seule condition, sine qua non, c'est d'avoir écrit un scénario, comme on écrit un documentaire. En fait, j'ouvre une boîte de Pandore, mais chaque documentaire est écrit. On ne peut pas mettre en scène le réel sans se dire à l'avance, s'imaginer à quoi il peut ressembler. On avait des questions tellement précises que les invités étaient tenus de répondre naturellement sur le tempo d'une minute ou de deux minutes. Ce qui veut dire en fait qu'à l'écoute, vous allez l'entendre, chers auditeurs, vous allez rebondir d'un passage littéraire, d'un seul coup, un chant en turc apparaît. En fait, c'est une écriture scénarisée qui fait que l'écoute rebondit en permanence. Et donc, ça demande une rigueur scénaristique qui est dantesque.
La clarté est importante, cette notion de clarté dont vous avez parlé tout à l'heure, Ulysse. Moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche, nous recevons parfois des journalistes, c'est-à-dire des gens qui reviennent un petit peu du terrain, c'est la manière dont on peut, et ce qui est notre question existentielle pratiquement dans cette émission et dans d'autres émissions sur le service public, c'est de savoir comment on arrive à porter cette voix des oubliés, cette voix des autres d'une certaine manière. Et c'est là où votre démarche est quand même assez étonnante et assez unique, c'est que vous n'êtes pas issu foncièrement, Ulysse, vous connaissez ces contrées, mais de ces milieux, justement, de chrétiens orientaux. Combien de documentaires j'ai vu sur les chrétiens orientaux? Très peu. Combien de récits, à part des récits livresques ou des récits de très bons journalistes? C'est finalement assez rare. Et le média que vous utilisez est quand même assez nouveau. Est-ce que la question de la cible, justement, cette diversification des publics a été importante pour vous?
Oui, il y a non seulement la question de la cible, comme vous dites, c'est-à-dire qu'on vise un public nouveau, qui à la fois est se laisse capter par des sujets inédits, troublants, poétiques. Et j'allais dire une chose quand même, c'est qu'il y a aussi la question de la légitimité de la parole. Parce que souvent, ceux qui prennent la parole sur ce thème, par exemple, des chrétiens d'Orient, c'est les chrétiens d'Orient, et même c'est les Arméniens beaucoup, certains Éthiopiens, des Coptes ou des Maronites. Après, on peut citer toutes les écoles, mais en tout cas, quelqu'un, j'allais dire, de laïque, qui ne défend pas une chapelle particulière et qui est pris de passion pour une culture, c'est un vrai enjeu. Et j'allais vous dire, moi qui ai longuement travaillé sur l'Europe centre-orientale, les Balkans et l'Europe centrale, on m'a fait aussi certains reproches en me disant « mais tu es pas polonais, tu es pas roumain, comment tu peux t'approprier ?» Et d'ailleurs, il peut y avoir le soupçon que je trouve un peu inquiétant d'appropriation culturelle, ce qui est pas du tout notre objet là. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire un passage de culture, un témoignage. Surtout, et peut-être qu'on peut mettre les pieds dans le plat, c'est que c'est un sujet qui est douloureux, qui est inquiétant, qui est même sombre, tragique, profondément tragique. La question des chrétiens d'Orient, c'est une question de drame dans l'angle mort de nos consciences européennes. On n'entend pas tellement parler de ça, même dans les grands conflits qui agitent aujourd'hui le Moyen-Orient, on a l'impression que le sort des chrétiens est résiduel, il est interstitiel, si j'ose dire. Or, il est fondamental. David lève la main.
Oui, alors, moi j'allais insister, Sébastien, sur un point important, c'est que des sujets lourds ou des sujets graves comme ça, on n'a pas envie, en tant que spectateur, d'auditeur, de s'y plonger. Et ça serait dramatique que seuls les initiés ou les experts de la région soient les seuls à s'y plonger. J'imagine qu'autour de cette table, et un peu partout dans les postes qui nous écoutent en France et ailleurs, Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on a pu comprendre grâce à une peinture troublante, grâce à une chanson fantastique, où d'un seul coup, un sentiment humain était résumé et était capable de nous pénétrer. Je suis allé au cinéma avant l'été voir un film d'Emmanuel Finkiel. Je fais cette parenthèse importante. La chambre de Mariana, si je me souviens bien. Où en fait, donc j'allais dire un énième film sur la Shoah, sauf qu'en fait, ce qui était troublant, c'est qu'on était dans le prisme d'un gamin qui était caché, dans une maison close, par une prostituée. Et le premier soir où sa mère l'abandonne, malgré elle, d'un seul coup, elle revient dans le placard, elle annule tout. Sauf que c'est le rêve du gamin. Et en voyant cette scène-là, donc qui m'a saisi aux tripes, j'ai compris quelque chose de nouveau, mais j'allais dire par une forme romantisée. Et c'est pas un crime, hein, c'est comme la liste de Schindler, de Spielberg, qui n'a jamais été... Où, à mon avis, on a beaucoup enquiquiné, je crois, sur la façon dont il avait représenté les chambres à gaz, parce que dans cette scène-là, je crois que les pauvres gens qui rentrent dans la chambre à gaz ne meurent pas. Sauf que d'un seul coup, on a senti au cinéma l'angoisse d'être enfermé dans une chambre à gaz, et ça fait comprendre beaucoup de choses aux gens. Donc, voilà, que les auditeurs comprennent bien là où je veux en venir, c'est que la forme artistique, on pourrait entendre des détracteurs qu'elle peut parfois trop synthétiser les choses et trahir la réalité. Moi, je pense au contraire que c'est essentiel pour faire passer les messages importants.
Ulysse Maness, est-ce qu'il y a une partie de ce voyage qui vous a particulièrement marqué ?
J'allais vous dire que la première partie et la dernière, une manière de boucler la boucle, on commence à Istanbul et on finit à Chypre, m'a semblé être très poétique. D'abord parce que c'est un retour à l'eau, à la Méditerranée. Et je suis en train de lire ces temps-ci, en sortant de l'été, un livre vraiment mystérieux et passionnant qui s'appelle « Le secret de l'Occident ». Hélas, le nom de l'auteur m'échappe. Kozande, je crois. David Kozande, à vérifier. Et il forge le concept de thalassographie articulée. Et il dit l'Europe a cette spécificité particulière qu'elle a été greffée et dessinée par les eaux, par la mer, l'Adriatique, la mer Baltique. Et évidemment la Méditerranée. Et je trouve ça très beau de commencer sur le Bosphore et de finir à Chypre avec Famagouste, cette espèce de vision de l'Orient qui est une terre brûlée et en même temps une terre d'espérance permanente, terre magnifique et tragique. Et j'allais vous dire une chose, c'est que vous, Sébastien, c'est pour ça qu'on est aussi chez vous aujourd'hui à ce micro, c'est que vous avez été et vous êtes toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle au passé, un fantastique passeur de ces mondes-là. Moi, je suis allé dans le Tour Abdin la première fois parce que j'écoutais vos émissions quand même. Et là, en votre dernier livre, enfin, que je sache le dernier publié, parce qu'il y en a peut-être d'autres en cours, c'est La Marche et le Sacré, et c'est une espèce de dommage synthétique. J'allais pas dire un dépôt de bilan parce qu'il faut pas aller trop vite en besogne, mais en tout cas, vous faites vraiment un bilan sur le sacré. Et vous, qui avez consacré une si grande partie de votre carrière qu'on essaye de restituer dans cette série documentaire au passage des cultures des christianismes orientaux, eh bien, vous finissez en parlant d'un sacré qui n'est pas le sacré du christianisme, mais qui est un sacré de la découverte, de la rencontre et de la marche, du mouvement, ce que Sylvain Tesson appelle l'énergie vagabonde. Comme si c'était un sacré, ce sacré vous avez porté bien au-delà encore des thèmes et des mondes que vous avez pu croiser. Et je pense qu'on essayait de restituer ça dans cette série documentaire avec David.
Messieurs, je vous remercie infiniment d'être venus jusqu'à notre micro de France Culture. Voilà, je suis particulièrement touché, Ulysse et David, de vos mots. Et effectivement, ce podcast m'a profondément plu, sinon bouleversé. Je rappelle le titre « Enquête d'Orient sur les routes du christianisme », accessible sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner très vite et à écouter, à vous laisser mener par la voix des uns et des autres. Merci messieurs.
Merci.
Merci Sébastien.
Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Manuel Couturier pour la technique. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Restez sur France Culture. Solae, bon dimanche.